France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On fait le plein d'initiatives tous les jours dans les carnets de campagne. Cette semaine, nous sommes dans le Loir-et-Cher, département de la région Centre-Val de Loire, puisque le jeu des 1000 euros s'est installé à Thésée, village au sud de Blois. Vous retrouvez Nicolas Stoufflet dans un quart d'heure pour le spécial jeunes. Les enfants et les ados se frottent aux questions le mercredi, vous le savez. Et pour ma part, je passe un coup de fil à Thésée aujourd'hui, justement, car on y trouve une toute petite biscuiterie. Elle prétend même être la plus petite biscuiterie de France, qui travaille en 100% bio. Effort remarquable dans le contexte actuel. Avant cela, intéressons-nous à un objet étonnant à glisser sous le bureau pendant qu'on travaille. Et pour l'occasion, je donne de ma personne. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Pédaler en travaillant pour lutter contre la sédentarité. Non, je ne vous propose pas de bosser sur un vélo d'appartement, ce n'est pas très commode. Il s'agit d'installer sous son bureau un petit pédalier qui est fabriqué dans le Loir-et-Cher, justement, à Vallières-les-Grandes, entre Blois et Tours. Bonjour Vincent Fourdrinier.
Bonjour.
Vous êtes designer et créateur d'Eveia, l'entreprise qui commercialise ce pédalier. Alors, je suis en train de pédaler pendant que je vous parle. On l'a installé sous la table du studio de radio, donc je vais pouvoir vous dire ce que je pense de ce pédalier. Pouvez-vous d'abord nous décrire l'objet, s'il vous plaît?
Alors, ça ressemble à une jolie tour de PC, design et élégante.
Une unité centrale.
Ouais, c'est ça.
Avec des pédales de chaque côté.
Avec des pédales de chaque côté.
Alors, je suis en train de pédaler, je le disais. La première difficulté que je rencontre, c'est que je me cogne les genoux au bureau, Vincent Fourdrinier.
Alors, quand on est grand, il faut avoir un bureau qui est dans tous les cas adapté à sa morphologie.
C'est le cas dans mon bureau, là où je travaille, mais en studio, non. Effectivement, il faut avoir un bureau qui se remonte un peu.
Ouais, quand on fait jusqu'à 1m75, un bureau normal, j'ai pas besoin de le modifier.
Donc là, je l'ai décalé, je me mets un peu de profil sur la table, ça marche aussi. Ce sont de tout petits mouvements, hein. On pédale moins que sur une bicyclette.
Ouais, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un tout petit mouvement avec une petite amplitude pour deux raisons. La première, c'est pour pas qu'on tape dans le bureau. La deuxième, c'est une question de morphologie. Au niveau de l'aine, on a un muscle qui s'appelle le muscle du psoas. Mmh. Et si on avait fait une très grande amplitude, comme sur votre vélo, ben vous l'auriez pincé parce que votre genou serait monté très haut.
C'est assez agréable, hein, c'est fluide. Est-ce qu'on peut régler la difficulté du pédalage?
Oui, vous avez une application qui vous permet de contrôler à distance, donc pas besoin de se pencher sous le bureau. 5 niveaux de difficulté, ça n'est jamais difficile. L'idée, c'est pas de faire transpirer quelqu'un qui est assis toute la journée au bureau.
Est-ce qu'il est compliqué de travailler en pédalant, de se concentrer sur une tâche tout en bougeant ses jambes?
Alors non, ça devient l'idée quand on l'a développé, c'est que ça devienne un automatisme. Mmh. C'est-à-dire que les gens, ils oublient au bout d'un moment. Au début, on analyse la perception, on dit « Ah, j'ai ce muscle qui travaille », etc. Et après, ça devient un automatisme parce que dedans, il y a une roue d'inertie. Donc en fait, il y a beaucoup de technologies pour que les gens, quand ils l'utilisent, ça devienne... on n'y pense plus.
Quel est le principe de la roue d'inertie?
La roue d'inertie, c'est une roue qui est lourde et qui va tourner 13 fois plus vite que vous. Donc en fait, elle vous entraîne.
Mmh. Et pourtant, il n'y a pas d'alimentation électrique.
Oui, il n'y a pas d'alimentation électrique.
Comment ça marche?
Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les versions qu'on est en train de développer, c'est dedans, il y a un petit système de moteur, de bobine électrique qui va générer un champ électromagnétique qui va créer de l'électricité.
C'est en pédalant qu'on alimente le moteur?
Ouais. Alors c'est une version qu'on vous présente en avant-première, mais qui arrive d'ici là au mois de juin.
Très bien, juin 2025.
Ouais.
Vous vendez votre pédalier 600 euros chez Eveia. Vos clients sont surtout des entreprises, j'imagine?
Les trois quarts sont des entreprises. Et le quart restant sont soit des seniors, soit des gens qui veulent bouger quand ils sont en télétravail.
Et quelles sont les motivations des entreprises, justement? Il s'agit de lutter contre la sédentarité du personnel?
Oui, alors c'est un vrai fléau, la sédentarité, parce que les gens, ils sont malades, parce qu'ils ont mal au dos, ils ont plein de soucis. Mais aussi pour eux, c'est l'occasion de valoriser leurs espaces. Quand les gens sont en télétravail, travail, il faut les faire revenir parce qu'on a des espaces qui coûtent très cher au mètre carré.
Ah, c'est pour les faire revenir sur place dans
aussi,
les locaux.
Aussi, et apporter du service aux occupants pour vraiment valoriser l'endroit. Mais l'objectif premier, c'est la sédentarité, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elle a un coût énorme pour les entreprises. Quelqu'un qui va être sédentaire, le premier des trucs, c'est qu'il va commencer à prendre un peu de poids. Après, il va un peu avoir mal au dos. Après, vous voyez, tous ces petits sujets qui s'amoncellent au fur et à mesure des années qui passent. Et le fait de trouver un moyen de les faire bouger. Parce que là, on ne parle pas de sport. Si vous parlez de quelqu'un d'aller faire du sport, souvent, vous allez perdre l'écoute des gens. Parce que le sport, c'est de dire, je mets une tenue, il faut que je trouve un horaire, il faut que je prenne une douche, etc. Alors que là, on fait faire une activité physique qui est comme de la marche. Donc en fait, il n'y a pas de contrainte, c'est accessible à tout le monde.
La nouvelle version permettra de charger son téléphone portable aussi.
C'est ça, ouais. L'idée, c'est de dire, comment je motive quelqu'un à bouger? Eh bien, si je bouge, je produis l'électricité, je charge mon téléphone. On a tous un téléphone portable avec des batteries qui fondent comme neige au soleil. C'est le prétexte, le côté ludique, le côté un peu motivant.
Quels sont les retours pour l'instant de ceux et celles qui l'ont utilisé? Il n'y a pas de difficulté particulière?
Non, parce qu'on utilisait aussi bien en pédiatrie pour des enfants de 3 ans. On en a fait des kits pour mettre dans les lits pour les enfants. On utilisait dans des EHPAD. On utilisait pour... les gens qui vont acheter le pédalier sont des gens qui vont se dire « j'ai pris du poids, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes de retour veineux ». Donc c'est des gens qui vont chercher une solution, qui sont en demande d'eux. On ne va aller pas l'équiper typiquement un jeune qui, pour le moment, la sédentarité ne l'a pas impacté. Vous voyez ce que je veux dire?
Et quels sont les muscles mobilisés d'ailleurs?
Alors, toutes les muscles de la chaîne musculaire qui part de votre coude de pied jusqu'aux muscles de la ceinture lombaire et des muscles des abdominaux. Donc en fait, il y a plein de choses qui travaillent un petit peu. Mais un petit peu, c'est tellement plus que rien du tout quand on passe 12 heures par jour assis. C'est incroyable. Enfin, les retours sont juste exceptionnels.
La fabrication, donc, dans le Loir-et-Cher?
100%. Donc, plein de grandes marques sont nées dans des garages automobiles. Nous sommes nés dans un garage. Nous sommes actuellement dans un petit garage. Et là, on est en train de voir pour avoir un grand garage, un vrai site industriel d'ici un an et demi.
Et combien de pédaliers avez-vous vendu depuis votre création?
Quasiment 1500.
Voilà, ça reste pour l'instant un marché de niche.
Alors, c'est la problématique, c'est quand on est les seuls et les premiers sur le marché, il faut se faire connaître.
Eveya, un pédalier de bureau fabriqué en France, donc à Vallières-les-Grandes dans le Loir-et-Cher. Merci beaucoup Vincent Fondrinier.
Merci à vous.
Et bonne journée.
Bonne journée.
Et j'arrête un peu de pédaler pour vous lire les messages d'auditeurs et d'auditrices du Loir-et-Cher reçus dans la boîte mail des carnets de campagne. Axel est le président d'une association qui défend ardemment un instrument de musique qu'il aime et dont il veut changer l'image désuète ou religieuse. Il s'agit de l'orgue. Notre association Jeux d'Orgue 41 est basée à Blois, m'écrit Axel. 41, je le précise, c'est le numéro du département du Loir-et-Cher. Il y a 3 ans, poursuit cet auditeur, l'association a acquis un orgue à tuyaux portatifs qu'on appelle orgue coffre ou orgue positif et qui permet de faire entendre de la musique au sein d'ensembles variés avec d'autres instruments et ou du chant dans des lieux qui sont dépourvus d'orgue à tuyaux. Nous avons créé un petit festival de printemps qui programme 3 concerts différents dans 3 petites communes différentes chaque année. C'est le festival Orgue en 6, ainsi nommé parce que les communes se trouvent sur le cours de la rivière 6. Ces concerts de musiciens professionnels sont organisés par des bénévoles, avec le soutien des communes et du conseil départemental, devant 100 de personnes à chaque fois. Dans la semaine qui précède chaque concert, poursuit Axel, les enfants des écoles primaires sont conviés pour une séance de découverte de cet instrument, animée bénévolement par un professionnel là aussi. Les 2 premiers festivals ayant attiré du monde, les concerts de la 3e édition sont déjà programmés. Ce sera en mars et en avril à Saint-Lubin, Chambon-sur-Cisse et Saint-Bohaire dans le Loir-et-Cher. Festival Orgue en 6, l'association s'appelle Jeux d'Orgue 41. Et puis on passe sans transition de l'orgue à l'art de rue. Voici le courriel de Daniel. L'association Apollo a pour but de permettre aux habitants de Saint-Denis-sur-Loire, village de 900 habitants, pas loin de Blois, de se rencontrer autour d'activités sportives, culturelles et de loisirs. Et nous organisons un festival, écrit cette auditrice. Festival de peinture, graffiti, street art et technique mixte, baptisé Dionysar 41. La 3e édition aura lieu les 21 et 22 juin dans les rues de Saint-Denis-sur-Loire. Il s'agit d'un festival grand format, le premier du genre pour notre département. Les artistes peignent en direct pendant le week-end sur des toiles de 2 mètres par 2 mètres que l'association leur met à disposition et les visiteurs peuvent assister à la création des œuvres et échanger avec les artistes. Festival Dionysar, ce sera donc en juin à Saint-Denis-sur-Loire. Je vous rappelle que la Nièvre et l'Indre sont bientôt au programme puisque le jeu des 1000 euros y passe cette semaine pour des enregistrements. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour signaler des initiatives réjouissantes ou des gens géniaux dans ces départements 58 et 36, autrement dit du côté de Nevers et de Châteauroux. Pour nous écrire, vous allez sur le site de France Inter, rubrique carnet de campagne et vous cliquez sur « Contacter l'émission ». Nous lisons tous vos messages. Pour l'instant, restons dans le Loir-et-Cher.
France Inter, carnet de campagne.
Elle est fière de se présenter comme la plus petite biscuiterie de France. Pas sûr que ce soit vérifiable, mais elle est 100% bio et ça c'est avéré. Bonjour Nathalie Asselin.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes la patronne de Nâtisserie. Vous êtes à Thésée, où l'on retrouve le jeu des 1000 euros dans un court instant. Vos biscuits sont distribués dans des épiceries bio et dans des AMAP, notamment à Tours, à Blois, à Orléans et dans les villes autour. Donnez-nous faim d'abord, s'il vous plaît. Quel gâteau proposez-vous ?
J'ai une gamme relativement étendue, puisque je fabrique toute l'année une douzaine de produits. Des sablés nantais, des sablés craquelins, une création Nâtisserie. Des chococos qui font la réputation de la maison aussi. Je fabrique également des pralines qui sont légères en sucre et très appréciées des personnes qui font attention à leur tour de taille. Voilà, je propose aussi une pâte à tartiner assez insolite, puisque non pas faite sur une base de noisettes comme le sont souvent les pâtes à tartiner chocolatées, mais sur une base de graines de chanvre cultivées en Loire-et-Cher.
Ah, et la graine de chanvre, ça a quel goût ?
Ça apporte un petit peu d'amertume, tout comme le chocolat. Donc, je me plais à dire que c'est une pâte à tartiner pour adultes, parce que souvent, les enfants ne sont pas très fans de l'amertume.
Et ça, c'est pas sympa.
Non.
Plus petite biscuiterie de France, alors, en êtes-vous vraiment sûre ?
Disons que je travaille seule. Donc, moi, les autres biscuiteries, même artisanales, que je rencontre, sont souvent des PME de 25-30 salariés. Alors que moi, je travaille seule et je décompose ma semaine de façon assez harmonieuse. Je fabrique mes produits en début de semaine. Et en fin de semaine, soit je fais des ventes ou des tournées de livraison sur les villes que vous avez citées précédemment.
Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de se maintenir en 100% bio dans le contexte actuel ?
Ça demande un peu d'énergie, en effet, parce que depuis quelques années, les ventes de produits bio sont plus à la baisse qu'à la hausse, mais... disons que moi, j'essaye de maintenir mon équilibre en augmentant le nombre d'AMAP que je fournis, puisque les consommations ont tendance un petit peu à baisser. C'est pas non plus spectaculaire, mais la tendance est plus à la baisse, oui.
Mais vous y tenez à rester en 100% bio ?
Oui, absolument.
Et les matières premières, on parlait tout à l'heure du chanvre, est-ce qu'elles sont toutes locales ?
Non, pas toutes. Pas toutes locales, parce que le chocolat, le cacao, pour l'instant, ne pousse pas en France.
Sans blague.
Peut-être le réchauffement climatique va nous arranger tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le sucre de canne non plus ne vient pas de France. Mais je donne bien sûr la priorité aux producteurs locaux. Pour ma farine, par exemple, je collabore avec un paysan boulanger qui est installé en bord de Loire, tout près de Blois, à Lestiou. Donc il s'appelle Amédéo. Et c'est vrai qu'il a une farine de très haute qualité, qu'il est très agréable de travailler en biscuiterie.
Le choix des farines, c'est important, hein, Nathalie. Il y a une importance de la diversité aussi, je crois.
Oui, c'est important. Je travaille également la farine d'épeautre, le grand épeautre non hybridé, qui s'appelle aussi Oberkulmer, de sa variété botanique, qui a été choisi par Hildegarde de Bingen au Moyen-Âge pour soigner les malades par la nutrition. Un peu l'ancêtre de nos naturopathes d'aujourd'hui.
Faible taux en gluten, donc, c'est ça ?
Oui, peu de gluten, et puis un gluten d'une qualité telle qu'il est très peu irritant, très peu agressif pour l'organisme. Beaucoup de mes clients qui se disaient sans gluten ont fini par l'adopter. Bon, ce n'était pas non plus des malades cœliaques, mais c'était plutôt des personnes intolérantes au gluten et qui soit consommaient sans gluten, soit certaines variétés d'épeautre, mais pas toutes.
Et puis la plus petite biscuiterie de France propose aussi des stages. Ça vous tient à cœur de transmettre votre savoir-faire ?
Complètement. Et c'est l'occasion pour moi de passer un temps un peu plus long avec mes clients que le simple moment où je vends un sachet de biscuits, ce qui ne prend pas beaucoup de temps. Et j'aime beaucoup cet échange et bien sûr la transmission des savoirs. Après, c'est pas que des stages de biscuits. Moi, je suis pâtissière de métier à la base, donc je propose des stages de toutes sortes de thématiques de la pâtisserie, pralinés, les desserts rapides, plein de choses comme ça.
Qu'est-ce qu'un dessert rapide ?
Rapide à préparer.
Rapide à manger aussi.
Souvent, c'est le cas, oui.
Ça s'appelle Nâtisserie et c'est à Thésée, dans le Loir-et-Cher. Merci beaucoup, Nathalie.
Au revoir, Dorothée.
Et bonne journée. Au revoir.